Bienvenue Larry et merci d'avoir accepté que je t'interviewe. On se connaît maintenant depuis quelques mois puisqu'on a mis en place un partenariat d'échange de visibilité. J'héberge notamment ton podcast sur le mien ainsi que sur ma chaîne YouTube. Donc, peux-tu commencer par te présenter?
Bonjour, donc je m'appelle Larry, j'ai 52 ans, j'habite en Île-de-France et je suis le créateur du site d'information sur le BDSM, univers-bdsm.info. Ce site, je l'ai créé il y a plus de 6 ans maintenant. En début d'année prochaine, ça fera 7 ans. C'est un gros projet sur lequel, en fait, je passe quasiment tout mon temps. C'est mon activité principale.
Est-ce que tu peux nous parler, de tes éventuels métiers antérieurs?
Alors, à l'origine, j'étais informaticien, c'est-à-dire j'ai fait des études informatiques à l'université. Ensuite, j'ai travaillé dans différentes sociétés pendant pas mal d'années. Il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter pour totalement me réorienter vers autre chose. Et donc, le BDSM, ça a été ma façon de me réinventer. C'est-à-dire j'en fais depuis très longtemps, hein, depuis que je suis adolescent, en fait. Mais complètement se réorienter vers ce genre d'activité. C'était une réinvention totale. Donc voilà, j'ai tenté ça. Et ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur ça, sur ces différents projets qui sont tous reliés au BDSM.
Dans le cadre de l'article qui nous intéresse aujourd'hui, les travailleurs du sexe, peux-tu me dire ou peux-tu nous dire aux auditeurs quelles sont tes activités, ta ou tes activités, en tant que travailleur du sexe?
Alors depuis le début de cette année, je me suis lancé là-dedans. Ça faisait un certain temps en fait que j'y pensais, mais j'y avais jamais vraiment pensé sérieusement. Et puis finalement, je me suis dit, oh, pourquoi pas? J'avais quelques hésitations parce que j'avais un peu peur de pas être à la hauteur en fait. Et finalement, je me suis dit, non, je vais me lancer. Donc ce que je fais en fait, c'est une activité qui est totalement parallèle à mes activités donc d'explication du BDSM, d'information. Pour ça, j'ai choisi une identité totalement distincte pour bien séparer ces deux activités que j'ai appelées le GML, c'est-à-dire le grand méchant Larry. Et j'ai utilisé ce terme-là parce que j'ai trouvé que c'était assez marrant, que ça tombait quand même un peu dans le contexte du BDSM, même si bon, derrière, en réalité, je suis pas vraiment méchant, évidemment.
Faut-il le préciser?
C'est quand même utile de le préciser, ouais, parce que les gens, ils se font beaucoup d'illusions sur ce que c'est que le BDSM.
D'accord. Et donc, ça fait quelques mois maintenant que tu exerces cette activité-là.
Voilà, exactement.
Tu peux nous en parler un peu plus en détail, qu'on comprenne en pratique de quoi il s'agit?
Alors, de façon un peu simplifiée, hein, bien sûr, je précise une chose, je me suis restreint uniquement à travailler avec des femmes. Je vais pas vous faire le détail exact de pourquoi, mais je me suis aperçu notamment qu'avec les hommes, il y avait un gros problème de compréhension, c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas ce que je veux faire, c'est-à-dire moi, je propose du BDSM. Et la plupart des personnes qui m'appellent, ce sont des hommes qui veulent pas du BDSM. Donc je m'en aperçois tout de suite et je dis non, non, je suis désolé, c'est pas ça que je fais moi. Donc maintenant, je dis immédiatement dès qu'un homme me contacte non, parce que c'est toujours pour me dire des choses qui sont pas du BDSM.
C'est-à-dire qu'ils veulent quoi?
Ben, ils veulent du sexe en fait. Typiquement, en fait, ils me demandent des choses du genre, est-ce que tu es actif ou passif? Mais actif et passif, ça n'a pas de sens dans le contexte BDSM. Dès qu'ils me disent ça, je comprends ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est est-ce que tu es là pour faire des rapports sexuels classiques, hein? Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse moi, et encore moins parce que ben, je ne suis pas intéressé par les hommes. Alors évidemment, ça m'intéresse encore moins. Et du coup, je me suis aperçu que quasiment tous ceux qui m'appelaient, c'était pour ça. Donc ils lisent pas en fait ma fiche, et du coup, ben, ils comprennent pas que ce que je propose, c'est que du BDSM. Cela dit, les femmes sont pas tellement mieux, hein. Elles non plus, elles lisent pas ma fiche. Donc, quand elles m'appellent, maintenant, je suis méfiant et je précise tout de suite, vous avez bien compris que je propose de fournir du BDSM, des services BDSM. La plupart du temps, elles n'avaient pas compris, en fait. Et donc, ben, finalement, elles disent, ah non, non, moi, le BDSM, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, j'ai la quasi-totalité des appels qui sont, dès le départ, ben, pas des appels de personnes qui ont lu ma fiche, qui est très claire, hein. Sur ma fiche, c'est très clairement indiqué que je ne fais que ça. Et du coup, il y a un gros problème de compréhension, donc la conversation s'arrête très vite. Parce que
D'accord.
ben je leur dis, ben non, moi je fais du BDSM.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles du BDSM? Parce que c'est très très large, le BDSM. Qu'est-ce que tu proposes comme pratique, en fait, hein, rentrons dans le vif du sujet.
Bah justement, un peu tout ce qui est dans le BDSM, avec des limites, hein, bien sûr, parce que, bien entendu, je connais pas mal de choses, hein, ça fait très longtemps que je fais du BDSM. Mais ce que je fais, moi, avec des copines, par exemple, évidemment, ce sont les choses qui me plaisent et qui leur plaisent, bien entendu. Donc, il y a quand même des limites à ce que je fais le plus souvent. Mais il y a plein d'autres choses que je peux faire, même si c'est pas des choses que moi, je fais habituellement quand j'invite une copine, par exemple. Mais cela dit, il y a quand même des limitations dans ce que je connais, dans ce que je veux bien faire, ce qui m'intéresse en fait, et dans ce que je peux faire. Parce qu'il y a des choses que je sais pas faire et qui sont soit trop dangereuses, soit qui demandent vraiment de savoir, un savoir-faire en fait, hein, que je n'ai pas. Donc là, bah, je dis, bah, je suis désolé. Mais ça laisse quand même énormément de marge de manœuvre. Hein. Donc, bah, je demande à la personne, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez en fait? Et j'ai déjà une liste de choses parce que j'ai créé un petit site web dans lequel je présente justement les activités typiques BDSM que je propose. Et dans la discussion, ben, je dis, ben, vous, c'est quoi le genre de choses qui vous intéressent? Quels sont vos fantasmes? Quelles sont vos pratiques pour celles qui en ont déjà fait? Et ensuite, eh ben, on discute et on voit ce que je peux faire, ce donc que je suis capable de faire et que je veux bien faire aussi.
D'accord. Et pour être un peu plus pratico-pratique, qu'est-ce qu'elle recherche?
Typiquement, ça va être des choses du genre bondage, donc immobilisation sur le lit par exemple. Ça va être des choses du genre humiliation de différents types, et puis des choses du genre fessée, ce genre de choses. Ça, ce sont les bases. Donc après, on peut rajouter tout un tas de choses du genre plug anal gonflable, travail des seins, ce genre de choses. Mais la base, c'est ça en fait.
Et quelles sont tes limites? Quelles sont les choses que toi tu ne veux pas faire?
Alors, il y a tout simplement des choses que j'ai jamais faites et que je veux pas tenter quand elles sont trop risquées à mon sens. En général, pour les personnes qui m'ont contacté pour l'instant, ce sont des personnes qui demandent des choses qui sont assez basiques, assez simples. Donc, il n'y a pas de problème. Des choses du genre bondage sur le lit, par exemple, hein, c'est tellement basique que j'ai pas de questions à me poser. Les choses dont je méfie sont les personnes qui ont des fantasmes qui ne sont pas du tout relié à la réalité. C'est un gros problème dans le BDSM, ça. C'est que beaucoup de gens ont plein d'idées, plein d'envies, etc. C'est normal. La plupart des gens ont des fantasmes. Et le gros problème sont les gens qui n'en ont pas vraiment fait encore du BDSM ou qui en ont à peine fait. Et du coup, qui ont des fantasmes qui sont très souvent très irréalistes, très exagérés. Et un des gros problèmes que je rencontre et que j'ai toujours rencontré, hein, c'est-à-dire avec toutes les personnes avec qui j'ai pu faire du BDSM ou avec qui j'ai pu en discuter, c'est que la plupart des gens ne savent pas en fait à l'avance, c'est normal, qu'est-ce qui va réellement leur plaire ou pas. Et donc dans un cadre TDS, il faut faire vraiment très attention à ça, parce que si jamais on se lance par exemple, parlons d'une chose toute simple, une fessée. Une fessée, c'est tellement basique que je ne me pose pas vraiment de questions. Mais là, il y a le problème de l'intensité, et parfois j'ai des surprises. Alors en dehors du TDS, j'ai déjà eu le problème. C'est que je commence une petite fessée de base avec une fille qui était parfaitement d'accord, qui pensait que ça la branchait, que c'était à fond ce qu'elle voulait. Et finalement, ben non, c'est beaucoup trop pour elle. Ouh là là, au secours, on arrête. Et donc, ben dans le TDS, il y a exactement ce problème-là. Donc, faut être super hyper prudent avec ce que les personnes demandent par rapport à ce qu'elles sont capables de faire, capables de recevoir, et par rapport, ben, à la réalité, quoi. Parce que les personnes, elles ont trop souvent un décalage fort entre la réalité et la fiction.
Tu as d'autres exemples de décalage ou de demandes qui paraissent irréalistes, qui sont fondées sur des fantasmes, qui n'ont pas été confrontés à la réalité?
Alors oui, j'ai déjà eu des exemples du genre de faire des choses un peu exhibitionnistes. Alors je viens justement de faire un épisode de podcast où je parle de ça, où je parle de mes scrupules et du fait que l'exhibitionnisme en soi, je suis contre. Mais il existe d'autres formes d'exhibitionnisme plus discrètes. Et j'ai déjà eu effectivement des grandes discussions, mais là, ça n'avait pas été jusqu'au bout, où quelqu'un m'avait proposé, ben, de faire des choses en fait à l'extérieur et d'aller visiter des sex shops, ce genre de choses. Sur le principe, j'étais d'accord, mais la personne après, elle était partie dans des délires qui étaient un petit peu effrayants. Et moi, j'essayais de la calmer en disant, attends, attends, doucement, ça, ce que tu dis là, c'est aller beaucoup trop loin. Moi, je sais pas comment tu vas réagir. En fait, il y avait deux problèmes. Moi, j'avais peur de pas savoir comment elle allait réagir, comment elle allait se comporter en fait en public. Et j'avais aussi évidemment peur qu'il puisse y avoir des réactions des gens autour, même si elle comptait pas se mettre nue devant tout le monde. Hein. Et là, par exemple, j'ai mis tout de suite le holà en disant, attends, doucement, je veux bien faire des choses où on sort ensemble, où tu es sous un manteau, par exemple, où en réalité tu es nu, ce genre de choses. Mais attention, moi, je suis pas encore sûr de qu'est-ce qu'on peut réellement faire. Ensuite, elle voulait aller dans des sex shops où elle voulait demander l'autorisation de vraiment s'exhiber, par contre, c'est-à-dire de vraiment se mettre nu, etc. Donc là, moi, j'étais, attends, doucement, moi, ça me dérange pas, mais doucement sur les fantasmes, je suis pas du tout sûr qu'ils accepteront. Ça risque de leur poser des problèmes avec les autres clients et clientes. Peut-être même que légalement, c'est pas des trucs vraiment autorisés. Donc j'ai vraiment essayé de la calmer, mais elle était à fond dedans. C'était pas évident de maîtriser la chose. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Ça, c'était un exemple de personne qui, dès le départ, était partie dans des tas d'histoires. Elle voulait aussi ramener une copine à elle. Enfin, c'était, ouais, c'était j'étais un peu submergé par ses demandes. Et j'avais un peu peur qu'elle en veuille trop au départ. C'est ça que je lui ai fait percevoir. C'est que je lui ai dit, attends, partons plus doucement, surtout si on se connaît pas encore, quoi.
D'accord. Ce qui fait que dans un autre contexte, au bout de là, je sais pas, moi, trois, quatre, cinquième rencontre, ça aurait posé moins de problèmes. C'est juste que tu n'étais pas sûr de la façon dont elle allait réagir.
Oui, et ça, c'est un très, très grand risque.
D'accord. Et le risque, il est de quelle nature?
Alors, les risques, il y en a de plusieurs natures. D'abord, il y a le risque que la personne, elle pense que je suis un agresseur et qu'elle passe dans des idées que c'est de l'abus, etc. Ça arrive, ce genre de choses, je le sais, même en dehors du TDS, c'est un problème qui est pas totalement négligeable, surtout quand on est un homme dominant, évidemment. Et là, malheureusement, on subit fortement hein, tous les stéréotypes sexistes, notamment les idées que les hommes dominants, c'est des gros méchants, etc. C'est totalement stupide et ridicule, hein. Les gens qui connaissent un tout petit peu le BDSM savent que c'est stupide et ridicule. Mais malheureusement, par exemple, la police, la justice, ils ont encore du mal avec ce concept. Donc, c'est très risqué pour un homme dominant de faire ce genre de choses. Et si jamais on tombe sur quelqu'un avec qui ça se passe mal, ou qui était totalement dans un délire et qui finalement se retourne contre vous, là, c'est chaud, quoi. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est possible, je sais que ça existe.
Ça t'est peut-être jamais arrivé parce que tu as pris des précautions.
Et aussi parce que j'ai eu la chance de jamais tomber sur des personnes qui sont de mauvaise foi, parce que ça arrive, des personnes de mauvaise foi, ou bien qui sont des personnes qui ont des problèmes de self-control, par exemple. Parce que c'est ça le problème, en fait. On a beau être super hyper prudent, il y a des personnes qui peuvent très mal réagir, même à des suggestions, et ça, c'est imprévisible. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas prévoir les réactions des personnes avant d'avoir commencé à faire des activités de type BDSM. C'est impossible. Et c'est un très 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 grand problème du BDSM. Et évidemment, dans le TDS, c'est super risqué à cause de ça. Et moi, dans mon cas, je suis relativement privilégié parce que j'ai un rôle de dominant BDSM. Je connais des filles qui ont fait du travail du sexe en étant soumises BDSM. Et les histoires que je pourrais raconter, parfois, il y a de quoi avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Parce qu'elles sont tombées sur des personnes, des clients, qui étaient totalement en délire. Mais là, eux, c'était les dominants. Donc, ils imposaient des pratiques dangereuses, etc. Ou bien des choses qu'elle voulait pas faire. Et ça s'est très mal passé. J'ai des histoires qui sont pas jolies à raconter, hein. Donc ouais, c'est dangereux. Et même quand je fais super hyper attention, il y a toujours le risque que la personne, par exemple, elle ait plus de marques que c'est prévu. Au départ, hein, moi, je fais attention. Je connais tout ça. Je connais la musique, mais je connais pas tout. Et je peux pas tout prévoir. C'est normal. Donc même si je fais juste une fessée, faut que je fasse attention quand même. Au moins au début, hein, parce qu'après, évidemment, on voit que ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais des fois, on a des surprises. Il y a des personnes qui sont très, très, très fragiles physiquement. Et par exemple, une simple fessée, ça peut leur laisser des marques qui durent pendant des jours ou des semaines. Bien sûr, c'est pas la plupart des gens, mais si jamais on a une surprise, donc ouais, il faut faire attention, il y a vraiment des risques.
Les marques qui peuvent poser problème, pourquoi? Parce que certains clients sont en relation et elles ne veulent pas que leur conjoint puisse le voir.
Oui, il y a ça. Il y a ça, et puis on travaille sur des choses genre les fesses ou les seins ou autre. Donc c'est quand même pas les choses qu'on exhibe entre guillemets en dehors de son éventuel couple. Donc s'il n'y a pas le côté problème dans le couple, il y a quand même besoin de faire attention, par exemple à ce que les collègues, etc., se rendent pas compte. C'est pour ça que par exemple on ne peut pas faire des choses du genre attacher les poignets, par exemple, avec des cordes qui risquent de laisser des marques. Parce que ça, il y a des gens qui le font, hein. Moi je l'ai déjà fait plein de fois. Mais ça laisse assez facilement des marques si on tire dessus. Et après, Je laisse imaginer à une personne qui nous écoute qu'est-ce que ça peut être d'arriver le lendemain au bureau en ayant des grosses marques au poignet, par exemple. Tout le monde s'en rend compte. Et là, on risque d'avoir les gens qui se posent des problèmes et qui disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe? T'as été agressé, etc. Donc là, ça peut dériver dans des histoires pas possibles, évidemment.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et en particulier de ce qui t'a amené finalement à devenir travailleur du sexe?
Alors pour le BDSM, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais enfant. Ensuite, je m'y suis vraiment de plus en plus sérieusement intéressé. Grosso modo, la première fois en fait où j'ai vraiment essayé, hein, j'avais 15 ans. Ça s'est pas super bien passé parce que j'avais que 15 ans. Mais ensuite, je m'y suis mis un peu sérieusement vers 18-19 ans. Pour donner une idée, par exemple, je suis allé visiter le fameux sex shop BDSM Démonia, qui est à Paris, quand j'avais 18 ou 19 ans. Et à cette époque-là, j'avais déjà hein, visité d'autres sex shops, mais un sex shop BDSM, pour moi, c'était quelque chose d'important, c'était un pas supplémentaire en avant, c'était symbolique, hein, bien sûr. Mais ensuite, c'est plutôt quand j'étais dans ma vingtaine hein, que j'ai pu un peu développer tout ça. La grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'avais du mal à en parler en dehors ben, d'être déjà dans une relation et créer une relation alors qu'on n'est pas sûr dès le départ qu'il y a de l'autre côté des envies de ce genre, c'est un gros problème. Donc c'était assez difficile parce qu'à cette époque-là, c'est pas comme maintenant.
Quand tu dis à cette époque-là, c'est-à-dire c'était à quelle époque?
Ben, il y a 30 ans. Donc évidemment, c'était avant qu'Internet soit vraiment diffusé et utilisé par tout le monde et avant que le BDSM, on puisse en parler ouvertement. Parce que maintenant, j'en parle ouvertement. Dès que je rencontre quelqu'un, je dis, attention, je fais du BDSM. C'est même parfois ben, un argument, entre guillemets, d'intérêt, hein, puisque je recherche des partenaires qui font aussi du BDSM de préférence, bien entendu. Et donc, ben, progressivement, voilà, depuis ma vingtaine surtout, j'ai fait de plus en plus d'essais, de plus en plus de choses au fil des rencontres, en fait. Ensuite, il y a à peu près 7 ans, je suis allé pour la première fois dans un munch BDSM. Un munch, c'est une réunion publique BDSM, c'est-à-dire on discute de BDSM dans un bar ou un restaurant, typiquement. On ne fait pas de BDSM. J'y étais jamais allé avant parce que ça m'intéressait pas vraiment, en fait, mais par curiosité, j'y étais allé. Et je suis ensuite allé ben, très souvent à chaque fois qu'il y avait une réunion. Et j'ai discuté avec pas mal de monde et j'ai rencontré beaucoup de débutants et de débutantes, surtout des débutants, parce qu'il y avait beaucoup plus d'hommes, surtout des jeunes hommes qui avaient la vingtaine. Hein. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de questions sur BDSM, tout ça. Et c'est ça qui m'a incité à créer mon site. Et ensuite, à partir de mon site, je me suis donc orienté totalement vers le BDSM, parce qu'avant, je n'avais pas encore cessé de travailler. C'est à cette époque-là que j'ai cessé de travailler donc en informatique pour totalement m'orienter dans le BDSM. Et ensuite, à partir de là, ça m'a aidé à mûrir toutes mes connaissances, à prendre du recul, etc., et à réfléchir à des choses que moi, je faisais pas avec mes copines, hein, les filles que je rencontre. Donc, je me suis, entre guillemets, ouvert à d'autres idées, d'autres pratiques qui jusque-là m'intéressaient pas trop. Donc, j'ai pris pas mal de recul. Je me suis intéressé à de plus en plus de choses et de fil en aiguille, ça m'a conduit indirectement à me poser la question de ben maintenant que je suis devenu de fait un professionnel, même si c'était pas encore à cette époque-là du tout un professionnel dans le sens TDS, hein, bien sûr. Maintenant que je suis de fait à fond dedans, c'est-à-dire que je travaille à fond dedans, je me suis dit ben la conclusion logique en fait, ce serait ben carrément de gagner de l'argent en faisant différentes choses. Et la première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est de proposer des services BDSM. Donc j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit, oh bah oui, j'y pensais depuis pas mal de temps en réalité, hein. Mais j'arrivais pas à vraiment me convaincre que j'y arriverais en fait. J'avais des hésitations, je me disais, oh, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que je suis capable de le faire? Parce que c'est très différent, faut bien comprendre, c'est très différent de faire quelque chose en professionnel que de le faire en personnel. Parce qu'en personnel, évidemment, on choisit totalement ce qu'on veut faire. On fait en fonction de la partenaire avec qui on est, enfin dans mon cas, bien sûr. Et quand on fait pour quelqu'un d'autre, bien sûr, hein, c'est un contexte qui est très différent, évidemment. Même si le BDSM, lui, c'est la même chose. La façon dont on gère les choses avec quelqu'un qui paye est de façon naturelle, hein, très différente. On rend un service. Donc voilà, j'y suis arrivé comme ça, de fil en aiguille, en fait.
D'accord. Tu regrettes ce choix? Ou au contraire, c'est devenu quelque chose de très intéressant pour toi, au-delà du gain potentiel d'argent?
Je dirais pas que je regrette, mais par contre, je peux dire que Il y a pas mal de déceptions quand même, même si je m'y attendais. Hein. Franchement, je m'y attendais parce que il y a une chose que j'avais pas précisé, c'est que en dehors de mes recherches sur le BDSM et de mes écrits BDSM, ça fait très 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 longtemps aussi que je m'intéresse au sexe en général. Et comme je m'intéresse au sexe, évidemment, je m'intéresse au travail du sexe depuis très longtemps. En fait, quand j'étais déjà ado, etc., je trouvais que c'était un sujet intéressant. Et donc, je connais bien ce genre de choses, ce milieu, etc., même si je l'avais pas vraiment fréquenté, mais je connais ce genre de choses parce que je m'étais bien documenté, bien renseigné, que j'avais parlé avec des personnes qui sont dans ce genre de métier, etc. Donc, je savais à quoi m'attendre. Seulement, dans le BDSM, il y a quand même des différences. Et puis, le fait d'être un homme, c'est une très grosse différence aussi. Donc, c'est un cas vraiment particulier. D'ailleurs, chose assez amusante, en France, ce genre de service que je propose, c'est extrêmement rare. Je pense qu'on peut compter les personnes qui le proposent, les hommes qui le proposent, sur les doigts des deux mains et probablement qu'on n'atteint pas la dizaine. Et donc, la chose qui m'a en fait pas mal déçu, c'est que il y a trop de problèmes, plus que je ne m'y attendais, de problèmes de personnes qui comprennent pas ce que je propose, en fait. C'est-à-dire, je n'arrive pas à faire passer le message que je fais du BDSM. Et comme il n'existe pas de site d'annonce pour dire, voilà les services BDSM, eh ben, malheureusement, je suis obligé d'aller sur des sites généraux et donc, bah, les gens, ils comprennent pas. Et ça, c'est un gros problème parce que je suis submergé d'appels qui sont donc pas du tout pour du BDSM.
Un problème de visibilité.
Il y a un problème de visibilité et il y a un problème de compréhension. Il faudrait pouvoir avoir des sites dédiés aux services de type BDSM. Mais comme c'est très mineur, évidemment, bah, il n'y a pas vraiment de site dédié. Sur certains sites, il y a des catégories qui sont spéciales BDSM. Mais par exemple, celui auquel j'aurais bien voulu m'inscrire, il n'accepte pas les hommes.
Parce que j'allais dire des dominatrices professionnelles, là pour le coup, ça court les rues.
Pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Personnellement, j'estime qu'il y en a moins de 100 en France et déjà en étant super généreux.
D'accord. Sachant qu'évidemment, hein, je suis pas dupe, il y a un bon paquet de dominatrices, qui ne le sont pas vraiment, derrière lequel se cachent des arnaqueurs ou des arnaqueuses. Mais au-delà de ça, 100, par rapport à moins de 10 pour les hommes, c'est déjà plus, quoi.
Oui, mais c'est quand même pas énorme comparé à tout ce qui est le monde du sexe payant en général, quoi.
D'accord.
Alors, par contre, évidemment, après, il y a celles qui font pas leur pub et qui ne sont pas vraiment à fond dedans, évidemment. Même moi, en fait, hein, je suis pas vraiment à fond dedans. C'est-à-dire, pour moi, c'est annexe. Mon activité principale, ça reste quand même mon site internet. Je suis pas donc uniquement TDS, mais il y a pas mal de monde quand même qui propose des services de façon non pro, en fait. Amateur, c'est-à-dire seulement de temps en temps de façon ponctuelle. Mais là aussi, c'est quand même pas énorme. Hein. J'en connais parce que j'en ai rencontré. Hein. J'en connais personnellement. J'en ai rencontré lors de réunions BDSM. Et parfois, on le voit sur leur fiche de profil sur les sites BDSM. Mais ça aussi, hein, je pense que c'est totalement mineur. Difficile de donner des chiffres, mais s'il y en a plus qu'une centaine ou peut-être 200 en France, je serais étonné. Et ce sont quasiment à coup sûr des femmes, hein, des jeunes femmes surtout.
La question suivante que je voulais te poser, mais auquel tu as déjà répondu en partie, c'est quel regard portes-tu sur ce métier? Quels avantages y vois-tu? Quels inconvénients? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît pas? J'allais te demander est-ce précaire, mais j'ai envie de dire de toute façon, bah toi tu ne l'exerces pas comme une activité principale. Hein, genre, tu n'attends pas forcément après ça pour gagner ta vie. Si je me trompe, dis-le-moi.
Alors en fait, si j'en attendais pas mal quand même du point de vue financier pour un peu m'aider, parce que mon site il rapporte pas d'argent, donc évidemment c'est un petit peu difficile. Mais pour répondre quand même à la question précaire, et après je répondrai aux autres questions, ouais, c'est un boulot qui est super précaire en fait. Parce que ce dont la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est que le gros problème, on en a déjà parlé tout à l'heure dans mon cas, mais c'est un problème général. C'est que faut arriver à faire sa pub et donc à attirer des clients ou dans mon cas des clientes. Et ça, c'est pas évident. Et après, faut aussi gérer les rendez-vous. Et ça non plus, c'est pas évident. En fait, ce sont les choses les plus difficiles dans ce genre de métier. C'est pas la rencontre elle-même le plus difficile, même si c'est difficile, notamment pour les escortes plus classiques. Le gros problème, c'est de trouver le client, de convaincre, ou dans mon cas, la cliente, de convaincre la personne, de convaincre que le tarif, il est acceptable et raisonnable. Et puis ben, de gérer ensuite les rendez-vous. Pour donc revenir maintenant sur les questions précédentes. Alors, Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec le travail du sexe parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec le sexe en général, la sexualité en général. Or, pour moi, les personnes qui ont des préjugés sur tout ce qui est le travail du sexe, au sens le plus large, les points principaux qui posent problème toujours, hein, ce sont le porno, évidemment, et ensuite, au-dessus de ça, ce qui pose le plus de problèmes, le plus d'opposition, le plus de discussions, le plus d'énervement, c'est tout ce qui est donc prostitution, escorting, enfin, les services à la personne dans le domaine du sexe, voilà. Et là, par contre, il y a tellement de préjugés, tellement de problèmes, etc., que c'est un gros souci. Personnellement, je les ai jamais eus, ces préjugés, ou quasiment jamais. Il y en a quand même, je suis obligé de reconnaître. Il y a quelques préjugés que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'ai perdu maintenant, parce que ça fait si longtemps que je m'informe sur la sexualité et le BDSM, que bon, bah, j'ai balayé tout ça. Donc, de mon point de vue, ben, ce métier-là, il est tout à fait correct, je n'y vois aucun problème. Par contre, il est difficile à cause de plein de raisons, et la plus grande raison, dans mon cas, par exemple, c'est que c'est pas évident du tout de trouver des clientes parce que, ben, on ne peut pas faire sa pub ouvertement parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont anti-TDS. Et le gros problème du TDS, ce sont ces lois anti-TDS qui elles-mêmes viennent de malentendus, en fait, sur qu'est-ce que c'est la réalité du travail du sexe. Fondamentalement, c'est là le problème. Et le problème suivant, c'est ces problèmes-là viennent d'un problème fondamental qui est la presque totale ignorance sur la sexualité en général. Et malheureusement, ben, tout découle de là, en fait.
Quelle différence estimes-tu qu'il y a entre ta façon d'être travailleur du sexe, donc les prestations que tu proposes, et la prostitution?
Personnellement, je trouve qu'il n'y en a aucune. La seule chose qui change réellement, c'est que on joue sur les mots, en fait. Le terme prostitution, c'est un gros problème parce qu'il y a tout un passif dessus, il y a tout un imaginaire complètement faux, hein, complètement biscornu, déraisonnable et stupide, hein, n'ayant pas peur des mots. Et donc, ben, du coup, c'est devenu un peu un mot tabou, un peu un mot interdit. Et quand on l'utilise, c'est tout de suite, oh là là, la panique, la panique, la panique. C'est un peu comme je disais tout à l'heure avec le porno, pareil, la panique, la panique, la panique. Mais plus les gens sont ignorants et ignorantes, plus c'est la panique. Quand on connaît mieux, il y a beaucoup moins de panique, etc. Il y a plein de problèmes, hein, attention. J'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a plein de problèmes dans le travail du sexe, hein. C'est comme tous les métiers, il y a des soucis. Et dans ce genre de choses, il y a pas mal de soucis spécifiques. Pour revenir à la question, donc, pourquoi est-ce que moi je dis que c'est la même chose, même si ce que je propose, c'est pas vraiment un rapport sexuel, c'est-à-dire quand je vais attacher quelqu'un sur le lit, même si elle est nue, ou que je fais une fessée, ce genre de choses, c'est pas du sexe. Mais après, bon, bah, je peux utiliser des godes, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Après, on joue sur les mots. Personnellement, ça m'énerve. Je comprends pourquoi on le fait. Je comprends très bien pourquoi on le fait. Mais je pense que c'est complètement absurde, en fait, hein. On est obligé de jouer sur ça parce qu'il y a des lois stupides, parce qu'il y a des préjugés stupides. Mais la réalité, c'est que tout ça, moi, je l'emballe dans une grande catégorie où j'aime pas, en fait, qu'on fasse trop de coupage de cheveux en quatre et ce genre de choses. Pour moi, je regroupe tout ça dans un grand panier en disant, ah, tout ça, c'est quand même dans la même catégorie de sujets, c'est la même catégorie de choses qu'on fait. Donc, je vois pas du tout de problème à dire que oui, c'est la prostitution.
Tu veux dire que par là, que tout ça, c'est lié à la sexualité.
Exactement, c'est un bon
D'accord.
résumé.
Tu l'as pas précisé tout à l'heure, quand tu dis que tu proposes des prestations BDSM et que je te posais la question des limites, tu n'as pas forcément rebondi, mais j'étais resté sur l'idée que tu ne désirais pas avoir de relations sexuelles à proprement parler, dans le sens pénétration directe de ton sexe dans leur sexe, pour faire simple, hein.
C'est pas que je sois contre l'idée, le problème c'est que je suis pas certain d'en être capable au bon moment parce que quand on est en train de faire des activités de type BDSM, en tout cas dans mon cas, c'est quelque chose qui demande de la concentration et qui demande aussi souvent des efforts physiques. Par exemple, simplement donner une fessée, c'est pas un très bon exemple, mais c'est quelque chose de physique. Il y a pas mal de choses que je fais qui sont des choses où, comme ça, on est obligé de se concentrer sur l'activité BDSM et du coup, même avec mes copines, hein, c'est difficile de se concentrer sur les deux en même temps. C'est-à-dire, j'avais déjà rencontré le problème, entre guillemets, avec une fille, bah, elle comprenait pas que j'arrivais pas à bander, mais je bandais juste avant, mais après, j'ai passé plein de temps à lui faire des choses BDSM. Je peux pas rester en bandant tout en étant en même temps en train de faire des exercices assez difficiles avec du doigtage, du machin, du truc, qui me font perdre ma concentration, qui me permettaient de bander, quoi. Évidemment, c'est pas forcément évident, ben je peux pas bander à la demande, quoi, évidemment. Et du coup, je veux pas vendre l'idée que oui, je pourrais, parce que peut-être que je serais pas dans la bonne humeur à ce moment-là. Et donc, en résumé, c'est parce que c'est difficile, quoi. On peut pas vraiment en faire à la demande. C'est le gros inconvénient d'ailleurs des hommes quand ils veulent faire avec des femmes, c'est qu'on peut pas forcément, ben, bander à la demande. Alors, je sais qu'il y en a, ils utilisent des médicaments, ce genre de choses, mais alors ça, par contre, moi, hors de question, je fais pas ce genre de choses-là. Donc, je suis pas opposé à l'idée, mais par contre, je ne vends pas que je vais le faire parce que je suis pas du tout sûr d'être dans l'humeur au moment où on le fait et d'en être capable au moment où elle le voudrait. Donc, je préfère ne pas dire que oui, ça fait partie des choses que, mais si après je peux le faire et qu'elle le veut, ça me dérange pas outre mesure. Mais à la limite, je préfère ça, en fait. Mais ça m'est un peu indifférent en réalité.
D'accord. C'est pas ce qui te motive le plus, très clairement.
Je suis là pour rendre un service et donc mon objectif, hein, c'est pas de me faire plaisir à moi, même si ben éventuellement, hein, quand je peux en profiter, j'en profite, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de satisfaire les demandes, les fantasmes, les envies de la cliente. Du mieux que je peux, en tout cas.
Pour quelle raison est-ce que tu dirais que tes clientes viennent te voir plutôt que d'aller chercher une relation BDSM non payante?
Je pense que la raison principale, elle est très simple. C'est exactement la même raison pour laquelle des hommes vont voir des dominantes professionnelles. C'est que chercher quelqu'un, quand on est une femme, quand on est une femme soumise notamment, puisqu'en fait, hein, moi, c'est ce que je propose, hein, comme je suis un homme dominant, je propose à des femmes qui ont des envies de soumission au sens large du terme. Et c'est plus facile relativement de trouver pour une femme, parce qu'il suffit de dire coucou, je suis là pour avoir plein de demandes. Mais c'est pas pour autant que c'est facile de trouver les bonnes personnes. Elles sont submergées de demandes, etc. Et puis après, il y a un autre problème, c'est que il y a un peu la peur, surtout quand c'est pour les premières fois ce genre de choses. Enfin, il y a un autre point, c'est que c'est beaucoup plus long et difficile de créer une relation, même si elle est ponctuelle, avec un homme rencontré, par exemple, sur un site de rencontre ou des forums BDSM. Quand il y a juste besoin de saisir le téléphone et de dire bonjour, monsieur le GML, est-ce que vous pouvez demain me prendre de telle heure à telle heure pour faire une séance BDSM? C'est vachement pratique. Et en fait, quand on y pense, c'est assez similaire à la raison, c'est exactement la raison d'ailleurs, pour laquelle il y a des femmes, même souvent des femmes aisées, hein, qui font appel à ce qu'on appelle des escort boys. Et donc moi, c'est exactement ce que je fais en fait, hein, c'est escort boy, mais BDSM.
Quelles répercussions ce métier a-t-il sur ta vie sociale, ta famille, ton entourage?
Alors je dirais que ça n'a pas vraiment, parce que du moins pas plus que le fait d'être déjà, eh ben, à fond dans le BDSM pour mon site. Le truc, c'est que toutes ces activités, je n'en parle absolument pas dans ma famille parce qu'on n'a jamais vraiment échangé sur le sexe, donc je vais pas m'amuser à leur parler de BDSM. La seule problématique qui peut se poser, effectivement, c'est quand je parle à des personnes que je connais qui sont là, par contre, dans la catégorie amis ou au moins relations. Quand ce ne sont pas encore des amis, quand on se connaît pas assez pour dire qu'on est des amis. Là, ouais, ça peut être un petit problème. Déjà, parler de BDSM avec mon site, c'est déjà des choses qui sont un peu chaudes, dirons-nous. Parler ensuite de TDS, c'est même pas quelque chose que je vais tenter avec la plupart des gens. Il y a que quelques rares personnes avec qui je puisse en discuter, ce genre de choses. Parce que c'est pas la peine, hein, d'essayer de parler de choses comme ça, alors que je sais que la plupart des gens ont d'énormes préjugés et vont peut-être mal réagir, ou au minimum ne pas comprendre ce que je veux dire. Et donc interpréter mal, ne pas me poser la question, et ensuite garder en tête des tas de sales idées, donc autant ne pas en parler, quoi. Donc sinon, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas une très grosse différence par rapport au fait que je suis déjà à fond dans le BDSM au sens large.
D'accord. Est-ce que tu as la sensation que ça t'isole socialement parlant?
Je dirais que oui. Je dirais que oui, carrément. Le thème même du BDSM, en soi, c'est déjà quelque chose qui est un petit peu isolant. Alors, de nos jours, évidemment, hein, je pense que tout le monde le sait, et les personnes qui nous écoutent le savent sans doute. On en parle pas mal du BDSM, et on en parle quand même un petit peu moins en mal. Ça s'est amélioré. C'est devenu presque possible d'en parler avec des gens qu'on connaît pas encore trop, etc., même s'il y a un risque. Mais en parler un petit peu, c'est une chose. Dire qu'on est à fond dedans, c'en est une autre. Et là, c'est un problème parce que ben, Déjà, dire par exemple qu'on est par exemple libertin, qu'on fait des soirées, des boîtes de nuit, etc., et qu'on est à fond dans le sexe et tout, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de gens qui l'accepteront pas trop. Mais alors, si en plus on parle de choses du genre BDSM, auxquelles sont rattachés plein de préjugés, plein de mythes toxiques, etc., ça rend les choses difficiles. Et le rejet, ça existe, hein. J'y ai déjà été confronté. J'ai déjà perdu, par exemple, une amie relativement proche, hein, juste parce que j'avais effleuré le sujet. Et je n'étais pas en train de la draguer ou quoi que ce soit, hein. Je parle bien d'une amie, hein. Et juste en parler, ça a complètement flingué, quoi, il n'y a pas d'autre mot, hein, la relation qu'on pouvait avoir. Donc, le problème, c'est que même de nos jours, on ne peut pas savoir ce que les gens ils ont dans la tête quand on parle de sexe, et quand on parle de BDSM, c'est bien pire, et les réactions sont imprévisibles. On peut avoir des gens qui disent « Ah ouais, cool, sympa », ou « Ah ok, un peu effrayé », et d'autres qui réagissent très 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 brutalement, hein, avec les insultes, etc. T'es malade mental, t'es un pervers et tout. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, un truc comme ça. La fille avec qui j'échangeais croyait que j'étais un tueur psychopathe. Bon, elle le disait un peu en ri...
Je
elle le disait
j'essaye
quand
de
même.
excuse-moi, j'essaye d'éviter de rire de temps en temps, mais bon, parfois évidemment, ce genre de remarque me fait éclater.
Bon, elle le disait un petit peu en rigolant, mais il y avait à moitié de la sérieux problème derrière quand même, parce que je lui avais envoyé des photos, parce qu'on en parlait du BDSM, je lui ai envoyé des photos parce qu'elle comprenait pas vraiment de quoi je parlais, et quand elle a vu mes photos, qui étaient pourtant pas extrêmes, hein, tout de suite, elle a dit, ouais, c'est quoi ce truc? Donc bon, dommage.
Est-ce que dans une certaine mesure, ce sont des gens qui ne demandent pas à être convaincus?
C'est une question qui est très difficile. Je sais pas. Je dirais oui et non. Il y a beaucoup de gens qui pourraient effectivement être convaincus, mais le problème, c'est pas le BDSM. Le problème, c'est la sexualité. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le gros problème, c'est l'ignorance générale sur le sexe, parce que ça déclenche absolument tous les autres problèmes. Les problèmes contre le BDSM et les problèmes contre le TDS et évidemment contre le TDS BDSM. Donc, il y a beaucoup de gens qui, certes, manquent juste d'informations et qui, une fois qu'ils rencontrent quelqu'un, se disent « Ah, ok, en fait, c'est ça, bon, ça va. » Dans le cas de tout ce qui est prostitution, utilisons le mot, hein, pour justement bien marquer en utilisant le mot auquel les gens réagissent mal. Même au sein de ma famille, j'ai des gens qui, à cette idée, réagissent très mal, hein, avec des choses qui sont des vraies horreurs, qui disent des vraies horreurs. Je suis certain que si à ces personnes, je présentais des filles que j'ai déjà rencontrées, et qui, par exemple, pour payer leurs études, ont fait donc du travail du sexe, notamment BDSM, sans savoir que ces filles en question, elles faisaient ça. Je parle de filles et pas de moi parce que les préjugés sont surtout sur les femmes. Si je les leur présentais sans rien dire, sans parler de métier, quoi que ce soit, et elles les trouveraient super sympas, etc., elles les adoreraient à coup sûr, et si à la fin on disait, au fait, je vous avais pas dit, mais elle, par exemple, ben, elle s'est prostituée pendant 5 ans pour payer ses études. Je serais curieux de savoir quelle sera leur réaction. Mais une chose est sûre, c'est que la plupart des gens réagissent mal parce qu'ils n'ont jamais vraiment été confrontés à des personnes comme ça. C'est comme le problème avec les gays, en fait. Il y a tout un tas de préjugés complètement ridicules, hein, sur les gays, ah là là, l'horreur, etc. Puis ensuite, quand les gens rencontrent quelqu'un qui est gay, ils se rendent compte qu'en fait, ouais, bah, c'est quelqu'un que on croisait tous les jours, c'est le collègue, c'est la collègue. Ah ok, en fait, on se faisait une montagne et il n'y avait rien derrière. Eh bien, pour le BDSM, c'est exactement pareil. Pour le sexe, c'est pareil. Pour le TDS, c'est pareil. Après, il y aura aussi ben, des gens qui seront toujours obtus parce qu'ils sont contre tout ce qui est sexualité. Alors ça, malheureusement, c'est un gros problème. Ces gens-là, jamais on pourra les convaincre. Donc, il y a de tout.
D'accord. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, pour clore cette interview?
Alors, juste une dernière chose, oui. De façon claire pour moi, hein, le vrai problème de fond quand on parle de prostitution et de TDS de façon plus générale, sur ces points-là, il y a énormément d'ignorance, de préjugés, d'idées fausses, d'idées reçues, etc. Toutes ces idées fausses, reçues, blablabla, tout ça, c'est toujours négatif. Je pense pas en connaître une seule qui soit positive. Ce sont des ignorances totales qui créent énormément de problèmes et ça crée des problèmes à absolument tous les points de vue. Ça crée des problèmes pour les personnes qui fournissent ce genre de service. Et là, c'est terrible. Les problèmes sont absolument terribles. Il y a beaucoup, beaucoup de soucis. Savoir qu'on est soit à la marge de la loi, soit en dehors de la loi, ça pose plein de soucis. Il y a des soucis avec la police. Quand on veut porter plainte pour une agression, c'est infernal, etc. Il y a des problèmes aussi, ben, pour les clients, évidemment, et les clientes qui se sentent coupables, souvent, ou bien qui ont du mépris. De façon très fréquente, hein, il y a du mépris envers les personnes qui sont donc fournisseuses de travail du sexe.
Des mépris des clients des travailleurs du sexe pour les travailleurs du sexe.
Exactement. C'est un problème qui est très fréquent et très répandu. Il y a du mépris pour les pornstars, mais il y a aussi beaucoup plus, je pense, de mépris pour ben, les filles qu'on va voir ou les hommes qu'on va voir pour demander un service sexuel. Il y a une honte, hein. Personnellement, je connais que deux hommes, et j'ai 52 ans, hein. Je connais que deux hommes, j'ai rencontré que deux hommes qui disaient ouvertement faire des rencontres de ce genre et aller voir les prostituées, quoi. Qui le disaient ouvertement. Deux seulement. Parce que c'est quand même un sujet, ben, qui est un peu tabou, qui est pas évident à aborder. Et donc, ben, tous ces idées fausses, tous ces problèmes, etc. Comme il y a quasiment une domination totale, en fait, d'idées fausses, eh bien, toutes les actions qui sont faites concernant le TDS tentent de répondre à de faux problèmes, ou bien à des problèmes qui sont très exagérés, ou bien qui sont pris de la plus mauvaise façon. Donc chaque fois, absolument chaque fois qu'il y a des interventions, des lois, des initiatives de faire des associations, etc., dans quasiment tous les cas, en tout cas pour les lois systématiquement, c'est soit s'adresser à des faux problèmes qui n'existent que dans la tête des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les personnes qui les votent, hein, les lois, qui les écrivent, soit au mieux, dans le meilleur des cas, ce sont des tentatives entre guillemets bienveillantes et qui tombent totalement à côté de la plaque et qui en fait empirent les problèmes existants. Et par contre, le gros problème, et c'est là où je voulais en venir et où je vais terminer, c'est que les vrais problèmes, et il y en a beaucoup, évidemment, hein, les vrais problèmes, eux, ils sont presque toujours ignorés. Et du coup, on se retrouve avec tout un tas d'interventions qui vont ajouter des difficultés aux personnes qui font du travail du sexe, donc, en même temps qu'il n'y a absolument rien qui est fait pour aider. Donc, ben, tout ça, ça se résume très simplement à ce que moi j'appelle la peur du sexe, c'est-à-dire l'ignorance quasiment totale sur le sexe, la sexualité en général.
Eh bien, sur ce, ça va être la fin de l'interview. Je te remercie d'y avoir participé, c'est très gentil, d'autant que peu de gens osent s'exprimer sur le sujet et que, qui plus est, les travailleurs du sexe homme sont beaucoup moins nombreux que les travailleurs du sexe femme.
Ben, merci de m'avoir reçu pour cette interview, hein. Et j'espère que ça aura aidé un petit peu, ben, les personnes qui nous ont écoutés, qui nous écouteront, à un petit peu mieux comprendre, ben, qu'est-ce que c'est le TDS dans un contexte BDSM et dans le contexte encore plus particulier d'un homme qui propose des services TDS BDSM, ce qui est très rare.